Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, avec Johanna Zilberstein.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du bâtiment optimisé, l'émission coproduite par Radio Imo et Axéo, où l'on vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Et nous allons continuer en ce sens, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler des travaux dans un bâtiment amianté, comment mieux maîtriser et surtout sécuriser son sujet. Et pour en parler, notre expert Axéo, Maïlk Frémont-Noton, aujourd'hui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur métier amiante pour Axéo, donc on rappelle qu'Axéo est un bureau d'études en bâtiment spécialisé. Notamment dans la remédiation amiante et dans l'optimisation des travaux liés à cette amiante. Et en face de vous, Caroline Chilaillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de projet amiante pour CDC Habitat, direction interrégionale Île-de-France. On va rappeler en quelques mots que CDC Habitat est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, ayant pour mission principale la gestion du patrimoine immobilier public. En 2020, c'est 525 000 logements pour plus d'un million de personnes logées, avec des logements sociaux intermédiaires et libre des foyers, des résidences et l'accession à la propriété. Tout ça, c'est un sacré programme et on va voir pourquoi vous nous intéressez particulièrement sur ce sujet que l'on va d'abord présenter. C'est parti pour la thématique du jour.
Le bâtiment optimisé, le sujet du mois.
Plan de relance, plan de travaux obligatoires, rénovation énergétique, mise en accessibilité, rénovation globale, travaux quotidiens entre réglementation croissante et besoins également croissants de performance. Les travaux dans le bâtiment se multiplient, mais qui dit travaux dit gestion du passé et des polluants, avec en tête l'amiante, on le sait, on la mettait partout il y a quelques années. Puis elle a été interdite en France en 1997. Elle est pourtant toujours présente dans de très nombreux bâtiments construits avant cette date. Et elle cause environ entre 2000 et 5000 décès par an. Alors la réglementation impose bon nombre d'obligations, parmi lesquelles le repérage obligatoire des matériaux amiantés avant tout travaux, le fameux RAT, la protection des usagers et occupants contre les conséquences de l'amiante grâce au DTA et le respect de certaines méthodologies de protection lorsque l'on intervient sur des matériaux amiantés. Alors traiter l'amiante lors de travaux dans un bâtiment peut donc devenir un véritable casse-tête pour les propriétaires et pour les gestionnaires et certainement une source de dépenses supplémentaires considérables. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur comment mieux gérer les travaux dans les bâtiments amiantés, petits travaux du quotidien ou gros travaux. On en parle avec nos experts.
Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts.
Et pour commencer, je vais d'abord m'adresser à notre expert Axéo, Maëlig. Avant de commencer à parler travaux amiantes, qu'est-ce qu'il faut absolument savoir ? Est-ce qu'il y a un petit béaba ?
Le principal, c'est déjà de se doter des bons documents de repérage. On sait que le dossier technique amiante, le fameux DTA, c'est un dossier qui va rassembler un certain nombre de repérages, de documents réglementaires, mais qui ne va être que partiel pour l'usage normal du bâtiment, pour le fonctionnement en termes de maintenance et pratique courante du bâtiment et usage. Dès qu'il va y avoir des travaux, il va falloir respecter un certain nombre de prescriptions en termes de modalités d'intervention. Donc là, on intervient sur le Code du travail, où il va y avoir des obligations, ce qu'on appelle la sous-section 3, la sous-section 4, en fonction des modalités d'intervention, et ensuite respecter un certain nombre de précautions liées au niveau d'empoussèrement d'intervention, la quantité de fibres d'amiante qui peut être émise lors d'une intervention sur un matériau qui a été repéré comme amianté.
C'est cette poussière qui est dangereuse ?
C'est cette poussière qui est dangereuse à l'inhalation et qui crée un certain nombre de pathologies spécifiques à l'amiante et d'autres qui peuvent être masquées par d'autres maladies. Beaucoup de cancers liés à l'amiante ont été masqués par le tabagisme, par exemple. Donc on a très largement sous-estimé les conséquences de l'amiante. Et donc les méthodologies de travaux sont faites pour réduire au maximum le risque d'émission. Et elles sont très diverses, nécessitent des moyens plus ou moins importants. Et donc ça représente un gros investissement pour les entreprises qui interviennent.
Carole Anne, en tant que gestionnaire, quelles sont, vous, les principales problématiques que vous rencontrez ? Et puis, quelles sont également vos exigences par rapport à ces travaux et à l'amiante ?
Concernant les problématiques, je dirais que la principale est celle d'intervenir en milieu occupé, en prenant en considération nos locataires, nos collaborateurs. Il y a forcément le risque d'une anxiété, d'un risque d'une mauvaise communication qu'il faut prendre en compte. Il y a le choix du mode d'intervention qu'évoquait Maïlie en première partie, à savoir la sous-section 3 ou la sous-section 4. Parfois, on a du mal à savoir dans quelle catégorie on se trouve, et c'est dans ce choix parfois qui est plus compliqué pour les bailleurs par rapport à leurs travaux. Et puis, la gestion et l'actualisation de la donnée qu'on reçoit et qui est conséquente. Concernant nos exigences, j'aborderai deux points. Le premier, c'est d'avoir des interventions avec des entreprises qui se rapprochent au titre de leur mode opératoire du zéro fibre par litre et d'avoir des entreprises qui sont qualifiées, certifiées SS3 et SS4.
Est-ce qu'on peut rappeler rapidement, Maëlie, ce qu'on entend par SS3 et SS4 pour les auditeurs qui seraient un peu perdus ?
Alors, ça va être assez compliqué d'expliquer ça en quelques mots, mais globalement, c'est des obligations réglementaires qui sont liées à la nature des travaux, à leur durée et donc à leur dangerosité. On va considérer que la sous-section 4, c'est plutôt des interventions de courte durée et qui vont couvrir aussi tous les travaux de petite maintenance, d'entretien courant, qui n'ont pas principalement pour but de retirer l'amiante tel qu'il est en place. On intervient sur ou à proximité d'un matériau amianté. C'est l'idée de la sous-section 4. Ça couvre aussi des interventions d'urgence. Quand, par exemple, il y a un dégât, il y a un incendie, on est obligé d'intervenir très vite pour sécuriser le lieu. Là, on intervient avec ces protocoles, pas allégés, mais simplifiés. Par contre, la sous-section 3, c'est le registre complet de ce qu'on appelle le désamiantage. Donc là, c'est une opération complète avec une procédure un peu plus lourde, un peu plus contraignante.
Carole Anne, quelle est-vous votre vision par rapport à ce sujet des travaux et de l'amiante ? Est-ce qu'il y a, en tant que gestionnaire, des points que vous considérez clés pour une réussite du projet ?
Bien évidemment, je pense qu'il faut avoir une stratégie claire et déterminée face à ces sujets. On ne peut pas y aller comme ça sans avoir, je dirais, un petit plan d'attaque parce qu'il y a beaucoup de risques à prendre en compte. Ça va être aussi s'appuyer sur des sachants comme justement Axéo en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, les bureaux d'études spécialisés. Ne pas négliger aussi tout ce qui va être retour d'expérience des bailleurs ou des autres professionnels parce qu'il y a beaucoup de démarches qui sont connues, les projets Carto, les chantiers justement sur les travaux types. Ça va être aussi toutes ces actions de formation, d'information et de communication entre les différents intervenants.
Maëlie, comment on fait pour optimiser la gestion de petits travaux lorsqu'il y a de l'amiante, les petits travaux, les travaux du quotidien ?
On va essayer de les anticiper au maximum et puis on va, dans le cadre des repérages réglementaires, étendre un petit peu les investigations pour aller chercher un petit peu les matériaux qui peuvent être cachés par le biais de sondages destructifs qui ne sont pas couverts dans le champ du dossier technique amiante classique. On rentre dans un champ qui est le repérage avant travaux, donc il faut envisager tous les matériaux qui pourraient être touchés ou découverts lors des travaux d'intervention. Donc on profite parfois d'interventions sur la mise à jour du dossier technique amiante, sur les états de conservation des matériaux, pour faire des investigations qu'on dit dans la liste C des matériaux, c'est des matériaux qui ne sont pas directement accessibles, qui sont un peu plus sensibles.
Carole Anne, comment vous faites-vous sur le terrain pour optimiser la gestion de ces petits travaux ?
Ça va passer en partie par la mise en place de marchés qui ont un cadre strict, un cahier des charges qui est lié donc aux interventions amiantes avec des bords de prix unitaires, c'est-à-dire qu'on va mettre des prestations et qu'en face on va mettre des prix pour lesquels parfois on inclura déjà la plus-value du risque amiante, par exemple pour tout ce qui est prestations d'électricité. On sait que la plus-value amiante elle est moindre, donc on va l'inclure directement dans un forfait global pour lesquels donc, ces entreprises elles vont intervenir, donc, on disait tout à l'heure, en sous-section 4.
Et en ce qui concerne les gros travaux, Maëlie ?
Alors les gros travaux, là, on ne coupera pas aux obligations strictes réglementaires. Là, il faudra faire des repérages avant travaux, avant démolition, avec des entreprises qui, elles aussi, sont agréées, certifiées, enfin, surtout les opérateurs de repérage qui vont être certifiés. Et là, il est souvent pertinent de se faire accompagner par un assistant à maîtrise d'ouvrage pour cibler les échantillonnages, pour caractériser les éléments, pour être certain d'avoir les documents réglementaires les plus exhaustifs et qui lèvent tous les doutes possibles. Ça permet d'anticiper les périmètres de travaux, d'estimer des coûts à leur juste valeur. Alors, il y a un terme un peu spécifique à notre métier qui concerne les ZPSO, donc c'est les étendues des zones d'ouvrage, en fait, qui vont permettre de dupliquer une présence d'amiante dans des éléments similaires pour éviter d'aller rechercher à chaque fois par une analyse. Donc, voilà, si c'est réalisé par des pros, par des spécialistes, si c'est bien coordonné, on arrive à avoir une vision très claire de la situation en amiante avant le démarrage de travaux.
Et donc on évite les mauvaises surprises.
On évite tous les aléas, les travaux supplémentaires et tout ce qui peut prendre du temps et coûter de l'argent.
Carole Anne, ces gros travaux en fait pour vous concrètement, comment ça se traduit ? Comment on les optimise ?
c'est de dire dans un premier temps quels travaux je veux faire, dans quel cadre je veux les mettre en place, avoir vraiment une liste exhaustive de ce que je veux faire et qu'elle soit écrite de manière voilà, claire et précise. C'est ne pas négliger les phases préparatoires, se faire accompagner donc, d'assistants à maîtrise d'ouvrage et des diagnostiqueurs, bien les initier dès les phases préalables pour qu'ils sachent comment nous on veut mener le projet et comment eux ils peuvent nous aider dans toutes ces parties. Ça va être effectivement ce qu'évoquait Maïline par rapport aux zones de similitude d'ouvrage, savoir celles qui sont bien positives et négatives et travailler sur les zones où il y a de l'hétérogénéité parce que c'est là souvent qu'on a des surprises et bien cadrer donc son cahier des charges pour déterminer l'intervention par la suite pour les entreprises.
Alors on voit bien ce que ça peut représenter. Est-ce que Maïlik, vous auriez un cas concret à présenter à nos auditeurs?
On parlait de la nécessité de faire intervenir des entreprises spécialisées, mais par le biais du repérage et leur précision, on arrive à adapter le mode opératoire. Plus le mode opératoire est faible en émission de fibres, moins les moyens de protection sont importants et les coûts sont donc diminués. Donc on a quelques exemples, mais un exemple qui me semble assez parlant sur la nécessité de préciser les repérages amiantes, c'est qu'on avait un diagnostic sur un opérateur de transport en commun qui préconisait le retrait d'un calorifugage qui était détecté comme amianté. Dans la réglementation, un calorifugage amianté, c'est un matériau de la liste A, c'est un process de traitement, ce qu'on appelle en niveau 3, donc c'est les plus émissifs en poussière d'amiante, et donc ça nécessite des confinements lourds et des grosses opérations assez coûteuses. On se retrouve avec des devis avoisinant les 450 000 euros pour une opération qui nécessite l'évacuation des locaux, un confinement strict. En creusant un petit peu les investigations, on a pu détecter que c'est finalement pas le calorifugage en lui-même qui est amianté, mais son enveloppe bitumineuse qui était autour. Et ça, dans ce cas-là, on change de catégorie de liste de matériaux, on change le risque d'émissivité et les protocoles d'opération. Ce qui fait qu'on réduit les contraintes de confinement, les coûts de travaux, et on arrive globalement à des opérations qui sont inférieures à 100 000 euros, donc on réduit considérablement les contraintes. Et surtout, on n'a pas été obligé de faire évacuer la zone de travaux, on a pu travailler en site occupé.
Et donc, il y a effectivement moins de pertes pour le gestionnaire et pour l'occupant. Caroline, un petit cas concret à partager avec nous ?
Bien sûr. Donc récemment, nous avons eu une petite opération de retrait de plaques fibro-ciment donc en gaine technique. Donc comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est un retrait. Donc on était parti sur une catégorie de travaux qui rentre dans la case de la sous-section 3 qui a trait donc à ces opérations de retrait. Donc en prenant en compte l'ensemble des intervenants pour cette opération, on était aux alentours de 50 000 euros pour ce type de travaux. En deuxième partie, on devait faire la même opération, sauf que cette fois-ci, on a été accompagné donc d'un AMO et on a vu que en passant par donc un mode opératoire où l'émission de fibres était contrôlée et que l'intervention pourrait se faire en sous-section 4 et ça a divisé le prix de l'opération par deux. Donc il y a quand même la nécessité de prendre en compte le fait que par catégorie d'opération, il y a quand même la possibilité d'intervenir soit en petits travaux, soit en très gros travaux, donc sous-entendu SS3 ou SS4.
Et on voit bien encore la nécessité de se faire accompagner par quelqu'un qui sait et qui maîtrise le sujet. Avant qu'on passe aux questions des auditeurs, Maëlie, est-ce que vous avez un dernier petit conseil à donner aux gestionnaires qui seraient concernés par ce sujet du travaux et de l'amiante?
On peut leur conseiller aussi de synthétiser l'aspect documentaire, d'avoir un outil de gestion globale qui va permettre de centraliser tous les documents au même endroit pour faciliter la diffusion et la communication, puisque le gestionnaire, il doit communiquer auprès de ses usagers et auprès de ses entreprises d'intervention le risque amiante et par le biais des différents documents dont on a parlé. Donc c'est intéressant d'avoir un logiciel, une synthèse documentaire. Donc il y a différents outils qui existent. On a un outil maison qui s'appelle Pandora qui permet de synthétiser ça, mais il y a d'autres outils sur le marché qui permettent d'avoir une vision et avec les outils informatiques, la gestion de la data est de plus en plus simple quand même.
Merci Maïlik, vous restez bien avec nous, Caroline également. On va répondre maintenant aux questions que se posent eh bien, nos auditeurs.
Le bâtiment optimisé, Axéo vous répond.
Et on prend une première question qui nous dit « Je cherche à investir, comment évaluer la problématique amiante en amont ?» Maïlik.
Alors l'idée, c'est de pouvoir faire une étude spécifique avant investissement, de réussir à déterminer le risque amiante, déterminer son coût et en fonction du projet qu'on veut mener, sans forcément avoir les clés du bâtiment qu'on va acheter. Parce que pour pouvoir faire les prélèvements réglementaires, il faut avoir les clés et on n'est pas encore propriétaire. Donc on peut utiliser des diagnostics anticipés. On a développé un produit qui s'appelle le due diligence amiante, qui est un petit cousin du due diligence environnemental qui existe déjà dans la réglementation pour les problématiques de pollution de sol, par exemple. Donc nous, on a développé ce produit-là qui va permettre, avec des investigations, avec des visites de sites, avec une lecture documentaire, de réussir à appréhender, de mesurer le risque prévisionnel et de définir des budgets pour l'investisseur qui va pouvoir arbitrer son projet et peut-être changer sa stratégie de travaux en fonction, avant même d'avoir fait une proposition.
On va prendre une deuxième question. On nous dit « je cherche un AMO pour m'accompagner ». Comment les comparer et sur quel point être vigilant, Maëlic ?
Alors, comment les comparer, c'est pas forcément évident. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a des certifications qui existent pour ces bureaux de conseil, ces bureaux d'études. Il y a une certification qui est l'OPQIBI, qui, la référence est 0902, donc qui certifie les entreprises qui sont en capacité et qui ont les ressources suffisamment compétentes pour faire de l'encadrement de travaux de désamiantage. Et puis ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de s'intéresser à l'indépendance de ces bureaux d'études vis-à-vis des entreprises de travaux, puisque l'intérêt pour nos clients, c'est de leur proposer les meilleures solutions au meilleur coût systématiquement, en faisant appel aux entreprises sachantes et intervenantes.
Caroline, quelques conseils pour trouver le bon AMO ?
Je vous conseille donc de commencer par leur demander peut-être des références, des comptes rendus de mission, de voir un peu ce qu'ils sont en capacité de vous donner, questionner par rapport aux problématiques courantes que vous avez et regarder les réponses qu'ils peuvent vous apporter. L'AMO, c'est vraiment un partenaire. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'il soit en parfaite, harmonie avec votre stratégie interne, ce que vous attendez.
Il faut être en confiance.
C'est ça, exactement.
Merci beaucoup, Caroline Maëlic, pour toutes ces réponses. Voilà qui va mettre un terme à cette émission consacrée aux travaux dans un bâtiment amianté. On va refaire un petit tour de table pour remercier Maëlic Frémont-Noto, le directeur métier amiante chez Axéo. Merci à vous.
Merci.
Et puis merci à vous, Caroline Chilaillet. Vous êtes chef de projet amiante pour CDC Habitat, direction interrégionale Île-de-France. Cette émission est désormais disponible en podcast si vous voulez la réécouter et vous mettre au fait de toutes les subtilités qui concernent les travaux et l'amiante. Vous pouvez également retrouver toutes les autres émissions du bâtiment optimisé sur notre site radio.imo, surtout vos agrégateurs de podcasts habituels. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro du bâtiment optimisé.
Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, à retrouver en podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles.